Radio Okapi.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La situation reste tendue dans le village de Bitoyi, dans le territoire de Massissi, selon de sources locales. Cette tension fait suite à une altercation entre deux groupes armés Wazalendo. Des affrontements avaient opposé dimanche et lundi deux factions Maïmaï, contraignant de nombreuses personnes à fuir leur localité. Ebola est désormais terminé à Boulapé, dans la province du Kassai, annonce faite hier par le gouvernement de la RDC. Dans ce journal, de nombreuses autorités applaudissent cette avancée. Au moins 150 personnes ont été indemnisées dans le cadre de la deuxième phase liée au projet de construction de la route des Rocades à Kinshasa. Notre invité, le président de la commission interinstitutionnelle chargée des expropriations, nous renseigne un peu plus. Bienvenue une fois de plus à ce journal de Radio Okapi. Au Nord Kivu, la situation demeure tendue ce mardi dans le village de Bitoyi, dans le territoire de Massissi. Selon des sources locales, cette tension fait suite à une altercation entre deux groupes armés Wazalendo. Dimanche et lundi soir, des affrontements ont opposé deux factions Maïmaï, contraignant de nombreuses personnes à fuir leur localité grâce à Mzati.
Ce mardi, un calme précaire semble s'être rétabli, bien que la situation reste volatile et imprévisible, indiquent plusieurs sources civiles. D'après ces sources, les hostilités ont débuté dimanche matin, lorsque des miliciens du groupe Maïmaï Lamouka, dirigés par Noa Mahachano, s'y dirigeaient vers le chef-lieu du secteur de Katoï. Ils ont rencontré les combattants du groupe patriote résistant congolais Pareko, mené par Mutayomba et Kigingi, au niveau de Bitoyi. Cette rencontre a dégénéré en échange de tirs qui ont duré toute la journée de dimanche et se sont prolongés jusqu'à lundi. Pris de panique, la majorité des habitants des villages allant de Bitoyi jusqu'à Mutindi, à environ 5 km, ont fui, certains se réfugiant dans la brousse, d'autres dans des zones jugées plus sûres. Selon certains observateurs, ces affrontements seraient liés à un désaccord interne. Une faction souhaitait poursuivre les combats contre les rebelles de l'FCM-23 qui occupent le centre de Katoyi depuis une dizaine de jours, tandis que l'autre tentait de les en empêcher. D'autres sources évoquent une lutte pour le contrôle des villages, motivée par des enjeux économiques dans une zone stratégique qui reste l'une des rares parties des groupements Ufamandu 1 et 2 à ne pas être sous occupation de l'AFC-M23. En attendant, la situation demeure très instable. De nombreux habitants ayant fui hésitent encore à regagner leur village par crainte d'une reprise des violences.
Entre-temps, dans la province du Sud Kivu, des tirs nourris ont été entendus dans la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu. Des violents affrontements opposent en effet les FRDC aux rebelles de l'AFC dans cette partie du Sud Kivu. À la base de cette altercation, une question de repositionnement des deux côtés des belligérants. Écoutons plutôt ce reportage.
Tout Kaziba est assourdi par de fortes détonations à l'arme lourde. Des sources militaires font état d'usage des missiles sol-air, ce qui fait craindre des dégâts collatéraux au sein des populations civiles prises en étau entre deux feux. Les hauts plateaux de Kaziba sont les principales cibles des belligérants. Les uns sont positionnés sur la colline d'Enguka avec l'intention de déloger l'autre camp de Kaziba Centre. Ces affrontements se répercutent directement sur d'autres entités environnantes de Kaziba vers la plaine de la Ruzizi. Katogota, Luvungi, Lubarika et Kamanyola Centre sont dans la torpeur. Enobi vient de tomber sur une maison résidentielle à Kamanyola, entraînant des morts sans d'autres précisions. Sur le plan humanitaire, la situation est désastreuse. Toutes les voies d'approvisionnement sont bloquées, rendant ainsi la population incapable d'accéder aux biens de première nécessité. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Et puis, fin de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kassai. L'annonce a été faite hier lundi par le gouvernement. aucun nouveau cas n'ayant été signalé au cours des 42 derniers jours depuis la guérison du dernier patient le 19 octobre, les autorités considèrent désormais que l'épidémie est terminée. Selon l'OMS, la riposte rapide et coordonnée du ministère de la Santé, appuyée par l'Organisation mondiale de la Santé et plusieurs partenaires, a été déterminante pour freiner la propagation du virus dans cette zone rurale difficile d'accès. Au total, l'épidémie aura touché 64 personnes, dont 54 cas confirmés et 11 probables, et donc 45 personnes décédées. On écoute le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, dans cet extrait choisi par Pauli Mousalia.
Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le ministère de la Santé, parce que rarement nous avons des bonnes nouvelles. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Ceci résulte effectivement du fruit de l'expérience de plusieurs épidémies. Nous avons vérifié que nous avions les molécules capables de soigner nos malades, nous avons vérifié que nous avions les vaccins, et surtout nous sommes tournés vers les partenaires, et particulièrement vers les États-Unis d'Amérique et le CDC Atlanta, pour pouvoir avoir les tests, pour pouvoir avoir un complément des médicaments et surtout pour avoir le soutien technique. Et cela, nous l'avons obtenu. Nous sommes tournés vers l'OMS, nous sommes tournés vers Médecins Sans Frontières. Et donc, je voudrais rendre hommage à tout ce partenariat pour que notre pays se rappelle qu'il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola.
Ainsi donc, comme vous pouvez tous vous l'imaginer sur place, à Boulapé, la joie est immense dans la communauté. Le chef du groupement de Boulapé indique que la présence de Ebola dans cette région constituait un danger permanent. Héritier Bopé invite donc ses sujets au respect des mesures barrières.
Nous sommes très contents car la présence de la maladie à virus Ebola parmi nous était synonyme de la mort. Lorsque l'on a déclaré la fin de l'épidémie, nous sommes passés de la mort à la vie. On avait peur de la mort parce que quand Ebola est dans un village, c'est la mort. J'ai dit aux habitants de Boulapé que l'épidémie est terminée. On peut se réjouir tout en restant dans le respect des mesures barrières pour éviter la maladie de main sale. Nous devons respecter les mesures barrières pour ne pas enregistrer une autre épidémie. Nous devons garder ces rythmes pour éviter toutes sortes de maladies.
Maintenant, alors que cette annonce est faite, quelle étape suivra cette déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola à Boulapé? La question a été posée au docteur Dieudonné Mwamba, directeur de l'Institut national de santé publique en République démocratique du Congo. Docteur Dieudonné Mwamba est joint par André Katende.
Non, on ne va pas abandonner la zone. Quand ça fait la déclaration de la fin de l'épidémie, nous commençons une période de 90 jours avec un plan de résilience pour renforcer le système de santé dans la zone santé de Boulapé et même dans les zones autour. Par exemple, déjà, on a eu à commencer pendant la riposte à faire des adductions d'eau à Boulapé parce qu'il y avait dans l'eau qui coule au niveau de l'hôpital et dans la communauté. Nous allons renforcer les structures de santé avec des réhabilitations, des dotations, des engins, des équipements et continuer avec des formations pour être sûr que dans la zone santé de Boulapé et les zones voisines, nous allons vraiment laisser un système de santé renforcé avec des capacités même de diagnostic. Nous allons voir comment doter cette zone d'un laboratoire capable de poser le diagnostic d'Ebola et même des autres maladies. Donc voilà tout ce qui va se faire dans les 90 jours et même au-delà des 90 jours. C'est vraiment le plan de résilience pour renforcer le système de santé dans cette zone.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire séjourne depuis ce lundi à Ngandajika, dans la province de Lomami, avant d'atteindre le territoire de Ngandajika. Moindo Nzangi a transité par la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. D'après le ministre, sa mission dans la province de Lomami est de lancer les travaux de voie d'accès du parc agro-industriel de Ngandajika. Moindo Nzangi, ministre de l'Agriculture, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
D'abord, je suis venu pour lancer les travaux de voie d'accès au parc agro-industriel d'Enganajika. Vous savez, c'était un très grand projet qui est très cher au chef de l'État, Antoine Fixeri Tshilombo, qui a voulu faire d'Enganajika la plaque tournante de l'agriculture dans cette grande région de Kassai. Et donc, avec les projets Prodan, pour lesquels le chef de l'État négociait de l'argent auprès de la BAD, un projet qui n'a pas été exécuté dans les délais que le chef de l'État souhaitait, nous sommes arrivés et nous avons appuyé sur l'accélérateur. Et donc, ce projet va avoir lieu. Nous sommes venus d'abord pour que le peuple sache que le chef de l'État insiste pour que ces travaux s'achèvent et ils vont s'achever. Nous sommes venus aussi pour dire à la population de Bujimaï que le projet se passe dans une autre province, la Lomami, mais le projet de parc agro-industriel de Ngandajika concerne surtout la ville de Bujimaï, puisqu'il s'agit de greniers agricoles qui va être mise à place pour servir la population de Bujimaï. Pour cela qu'on devait parler avec les autorités de la province du Kassai oriental, mais nous allons à Lomami et nous reviendrons ici vous dire les conclusions de ce que nous avons fait sur place.
Atterrissons à présent dans Kinshasa, la capitale de la RDC. L'Assemblée nationale a examiné au cours de la plénière de lundi le projet de loi complétant la loi du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, défendue par le député Paul Gaspard Ngondankoy. Ce texte vise notamment à mettre fin au conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle et les autres ordres juridictionnels et à corriger, selon lui, des lacunes constatée depuis des décennies dans l'application de la loi organique en vigueur. On écoute le député Paul Gaspard Ngondankoy dans ses propos recueillis par Grâce Amzati.
La présente loi organique qui modifie, complète et restructure plusieurs dispositions de la loi existante poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit, primo, de clarifier certains concepts de base afin d'éviter des interprétations divergentes. Secondo, préciser la nature et la place de la Cour constitutionnelle afin de mieux comprendre son rôle au sein du pouvoir judiciaire. Tertio, renforcer les conditions de nomination des juges en insistant notamment sur les critères de leurs connaissances et de leurs expériences dans le domaine du droit constitutionnel. Quarto, préciser les conditions d'organisation obligatoire du tirage au sort lors des renouvellements tertiaires et ternaires des juges. Le tirage au sort qui est prévu par la Constitution pour renouveler tous les 3 ans par tiers les membres de la Cour constitutionnelle est rendu obligatoire pour donner à cette exigence une double fonction qu'elle a. Le tirage au sort, le renouvellement, permet la respiration de la Cour par l'entrée de nouvelles personnes, enrichir la jurisprudence existante.
Et puis, si nous nous arrêtions un peu dans la province du Maniema pour écouter la voix des femmes, les femmes politiques de cette province plaident auprès du cadre permanent de concertation pour la femme congolaise, CAFCO en sigle, de mener des plaidoyers auprès des responsables des partis politiques afin d'accroître et d'accorder des crédits aux femmes potentielles candidates. Ces crédits sont des intérêts pour revenir au parti, permettront à ces femmes politiques de réaliser quelques activités génératrices de revenus pour leur permettre d'avoir des moyens afin de battre campagne. L'une d'elles, Madame Béatrice Mukombe, s'exprime au micro de Florence Kiza.
Par rapport au développement de la femme politique, parmi les obstacles qui font à ce que les femmes ne soient pas élues en République démocratique du Congo et en particulier ici chez nous au Maniema, c'est les moyens financiers. Parce que la femme demeure toujours pauvre. C'est pourquoi que nous formulons les recommandations auprès de CAFCO de mener des plaidoyers auprès des partis politiques et surtout aux secrétaires généraux des partis politiques qui gèrent les 10% des revenus de tous membres ayant reçu le mandat des partis politiques pour travailler soit dans le gouvernement, tant national que provincial, les députés qui ont été élus avec les mandats du parti à tous les niveaux, de prendre cet argent-là et d'accorder des crédits aux femmes potentielles candidates, de faire circuler cet argent et que les intérêts vont les revenir et s'en serviront pour battre campagne au moment des élections.
Actualité internationale.
À l'étranger, l'ex-président de droite hondurien Juan Orlando Hernandez, condamné à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue, puis gracié par Donald Trump, est sorti de prison alors que le pays vit des élections mouvementées, a indiqué sa femme aujourd'hui.
L'invité.
Au moins 150 personnes ont été indemnisées dans le cadre de la deuxième phase liée au projet de construction de la route des Rocades à Kinshasa. Invité de Radio Okapi, le président de la commission interministérielle chargée des expropriations, Georges Cauchy, salue la patience des bénéficiaires. Il affirme également la volonté du gouvernement de la RDC d'honorer ses engagements envers toutes les personnes impactées par le projet routier. Georges Cauchy s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le secrétaire général.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quel état de lieu dressez-vous du processus d'indemnisation des victimes du tracé du projet Rocade après avoir fait la ronde?
Mais après avoir fait la ronde, je trouve que le processus est en cours et que ça fonctionne correctement tel que nous l'avons prévu, parce que nous avons été mandatés par le ministre des infrastructures et ministre des travaux publics John Banza pour voir dans quelle mesure résoudre le petits problèmes qui suivent encore aujourd'hui pour la bonne marche, la construction des Rocades.
Combien des propriétaires sont éligibles pour le moment, donc en ordre de paiement par rapport à cette opération?
En ordre de paiement, il y a 580 personnes sur 3800. La raison est le simple, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore négocié et d'autres qui n'ont pas de documents officiels. Par documents officiels, entendu, les titres fonciers. Sans titres fonciers, il n'y a pas de négociation. Donc, bon, on ne peut pas vous payer non plus. Parce que l'État ne vous reconnaît pas comme propriétaire. C'est pour cela que l'État a résolu, par le chef de l'État lui-même, de résoudre ce problème en urgence. C'est-à-dire, préfinancer ces personnes impactées, payer pour eux, qu'ils négocient. Et en retour, lors de paiement, qu'on récupère de l'argent payé.
Lors de la première phase, combien vous avez déjà payé? Et cette deuxième phase qui vient de commencer, combien sont entendus?
Lors de la première phase, sur les 5 100 000 disponibles, on a payé presque 3 800 000. Nous avons privilégié l'intersection des Rocades avec la RN1. Ce n'était pas encore prévu, mais nous avons prévu le paiement parce que les travaux doivent aller très vite. C'est ça la différence de 5 100 000 avec les 3 millions et quelques payés. Donc on a du mou pour payer les autres qui se retrouvent sur l'intersection, qu'on continue à payer jusqu'à présent. Pour la deuxième phase, nous avons 4 millions et les 4 millions, c'est pour payer 104 impactés.
Qu'en est-il, monsieur le secrétaire général, des propriétaires n'ayant pas des documents requis?
Pour ceux qui n'ont pas des documents requis, le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse les aider et avoir des documents de manière à leur permettre de venir négocier, de ne mettre personne de côté. Il faut payer tout le monde. Nous avons déjà payé une partie au ministère des Affaires foncières qui commence déjà à élaborer des documents, des titres fonciers pour ces personnes-là.
En cette phase, quel est le message que vous pouvez lancer aux Kinois qui attendent avec impatience cette route des Rocades?
Ben, j'ai dit à tous les Kinoises et Kinois qu'ils aient confiance au gouvernement, qu'ils aient confiance à leur commission interministérielle en charge des expropriations, qu'ils aient confiance aux membres du comité de pilotage que compose le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que celui de l'urbanisme et habitat. Les travaux vont bon train, les problèmes on en a toujours, mais on est tenu à les résoudre. Nous sommes des hommes. On est là pour ça et on est là aussi aujourd'hui pour résoudre certains problèmes parce qu'il y a quelques points d'achoppement entre le riverain et les entreprises. Si nous sommes là, c'est pour les résoudre.
Êtes-vous sûr de respecter les délais requis pour 2027 afin de remettre ou de la remise de cette route?
Je suis sûr à 1000% que fin 2027, les Rocades seront inaugurées.
Monsieur Georges Cauchy, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, monsieur le journaliste.